Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Magali Lagrange.
À son arrivée à Abidjan, où il s'est produit hier, Manu Dibango a reçu un accueil triomphal. Le saxophoniste camerounais est venu célébrer sur scène ses 60 ans de carrière dans un pays qu'il a aimé et qu'il respecte. Comment expliquer ce lien, Jean-Baptiste, si particulier entre cette star et un pays qui n'est pas le sien?
Peut-être n'osez-vous pas suggérer qu'il est davantage aimé en Côte d'Ivoire que dans son pays natal, mais cela n'a rien de dramatique. Manu, vous le savez, est sans doute avec Myriam Makeba un des tout premiers artistes africains à s'être imposé sur la scène mondiale par son talent et non par quelques stratagèmes ou alors la tchatche. À une époque très lointaine où la musique africaine ne franchissait que très péniblement les océans, Manu Dibango avait conquis l'Amérique avec son fameux Soul Makossa, qui a même atteint en 1973 la 35e place au Billboard Hot 100 aux États-Unis. Suite une tournée américaine, il se produit au mythique Apollo Theater et le monde le connaît définitivement. Aussi, lorsque le président Félix Houphouët-Boigny demande à la direction de la télévision ivoirienne de créer un orchestre pour former et promouvoir les jeunes artistes de son pays, Ben Soumaoro s'en va naturellement chercher cet artiste auréolé de toute la reconnaissance mondiale que l'on sait. On lui donne les moyens pour travailler et il travaille bien. C'est tout à la fois plaisant et édifiant.
Pourquoi est-ce plaisant et édifiant?
Parce que Manu Dibango n'a pas toujours droit aux mêmes égards dans son propre pays, terre de talents musicaux certes, mais où aucune carrière n'a jamais eu la reconnaissance mondiale qui est la sienne. Mais à défaut d'être prophète en son Cameroun natal, il est au moins un demi-dieu dans nombre de pays du continent qu'il apprécie à sa juste valeur.
Mais comment expliquer qu'il ne soit pas autant reconnu et traité avec les mêmes égards dans son propre pays?
Comment, dites-vous, est-ce vraiment important? Vous posez des questions à problème. Pourquoi donc a-t-on, par exemple, tenu aussi longtemps éloigné des affaires du football camerounais une ancienne gloire de la dimension et du talent d'un Joseph-Antoine Bell, qui a un regard si perspicace, des analyses si justes sur le football africain? Souvent, tout cela ne tient qu'à quelques petites mesquineries, quelques rancœurs ou rancunes tenaces, ou simplement à des antipathies naturelles. Mais il arrive aussi souvent que cela relève de ce qu'un cardinal congolais qualifiait il y a peu de règne des médiocres. Les médiocres n'aiment pas associer à leur festin des talents qui pourraient leur faire de l'ombre ou simplement mettre à nu leur médiocrité, justement. Mais il faut aussi savoir admettre de temps à autre que certaines figures sont d'une envergure qui dépasse de loin les contours du pays qui les a vues naître. L'immense Manu Dibango est peut-être tout simplement d'une dimension que l'on ne peut plus emprisonner dans les frontières du seul Cameroun. Voilà qui nous ramène à ce qu'était Félix Houphouët-Boigny, un chef d'État qui voulait le meilleur pour son pays et n'hésitait pas à aller chercher des non-ivoiriens pour leur confier la charge de tirer la Côte d'Ivoire vers le haut.
Et ces non-ivoiriens de Félix Houphouët-Boigny étaient-ils si nombreux?
Il était et partout. Un directeur de cabinet d'origine antillaise, un secrétaire général de la présidence d'origine algérienne, le vieux avait naturellement la légitimité qu'il faut pour faire d'un Guatémaltèque un membre important de son gouvernement sans que qui que ce soit trouve à y redire parce que tous savaient qu'il le faisait toujours pour faire avancer le pays. Et si la Côte d'Ivoire, aujourd'hui encore, tient une position de leader dans la sous-région, alors qu'elle n'a pas la moitié des ressources naturelles de la Guinée-Conakry, par exemple, c'est parce que son président, à l'indépendance et pendant 3 bonnes décennies, a su attirer vers sa patrie tous les talents possibles du continent et de la diaspora. Comme justement Manu Dibango. Et lorsque la xénophobie et la médiocrité se sont glissées dans ce qui était jusqu'en 1993 une politique intelligente, la Côte d'Ivoire a basculé dans la méfiance, la suspicion, puis vint le coup d'État, et ensuite la violence, la rébellion, la guerre. Manu Dibango n'aurait certainement jamais été invité dans ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire après Houphouët-Boigny. La médiocrité, souvent, génèrent un climat morose alors que les choix des dirigeants visionnaires illuminent toujours de conséquences heureuses le destin des peuples.
Merci Jean-Baptiste Placa.